On ne doit donc jamais commettre d'injustice. On ne doit donc pas non plus répondre à l'injustice par l'injustice, puisqu'il n'est pas permis d'être injuste. Il est clair que non. Et faire du mal, crie-t-on, le doit-on ou non ? Non, assurément, Socrate. Mais rendre le mal pour le mal, cela est-il juste, comme on le dit communément, ou injuste ? Non, cela n'est pas juste. C'est qu'entre faire du mal aux gens et être injuste, il n'y a pas de différence. Extrait du Criton de Platon.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Le procès qui touche Socrate en 399 avant Jésus-Christ est sans doute un des plus connus de l'histoire. Je vous propose donc aujourd'hui de nous arrêter un moment pour essayer de comprendre les enjeux de ce procès et de la mort de Socrate et replacer celui-ci dans le contexte de l'extrême fin du 5e siècle et du tout début du 4e siècle avant Jésus-Christ. Que sait-on de Socrate ? D'abord nos sources. Socrate n'a jamais rien laissé d'écrit. Il a enseigné la philosophie de manière orale. Mais nous le connaissons néanmoins plutôt bien, grâce à Platon, qui a écrit une apologie de Socrate, qui parle également de son maître dans le Criton, et puis Xénophon a lui-même fait une apologie pour défendre Socrate. D'autre part, dans quelques œuvres de théâtre, on fait allusion aux philosophes. C'est le cas, par exemple, dans les Nuées d'Aristophane. Ce qui fait que le contexte du procès, je dirais même la défense de Socrate devant ses juges, nous sont finalement relativement bien connus. Que peut-on dire donc de Socrate ? Il est né vers 470 avant Jésus-Christ. Il a été sans doute deux fois marié. Il a eu des enfants. Sa vie est simple, faite d'une vie sans excès. Ce qui fait dire d'ailleurs à Platon qu'il a plutôt été pauvre. Xénophon signale que plutôt que pauvreté, il avait vécu modestement, sans avoir besoin de beaucoup de richesses. Sur le plan physique, eh bien, Platon, dans le Symposium, nous le décrit comme plutôt laid, petit, avec des yeux globuleux. Le contexte de la vie de Socrate est évidemment le siècle de Périclès, le grand siècle d'Athènes, de la démocratie athénienne. Lui-même, d'ailleurs, va participer aux événements historiques de son temps. On sait qu'il est hoplite pendant la guerre du Péloponnèse qui oppose Sparte et Athènes. Mais c'est à partir de 435 que Socrate entame finalement une vie d'enseignement philosophique. Comme je le signalais tout à l'heure, il n'a rien écrit, mais il a sans doute beaucoup parlé, ce qui fait que ses disciples ont retenu ses leçons. Qu'est-ce qui se trouve au centre de la pensée de Socrate ? Il faut que l'homme soit son propre juge. Et il faut que l'homme éprouve sa propre vie et essaye de mettre en parallèle les valeurs auxquelles il croit et la vie qu'il doit mener. Pour son enseignement, il va dans les places publiques, dans les gymnases. C'est pour ça qu'on a parlé de l'école du gymnase. Et donc, il est une des figures intellectuelles importantes d'Athènes dans le dernier tiers du 5e siècle. Mais en 399, trois hommes vont porter plainte contre le philosophe. Un poète, aujourd'hui oublié, Malétos, un riche tanneur qui fait de la politique, Anitos, et un orateur, Lycon. Ils portent plainte contre Socrate sur trois points particuliers. Socrate est accusé de ne pas reconnaître les dieux de la cité, d'introduire de nouvelles divinités et de corrompre la jeunesse. Évidemment, les accusations sont relativement graves, parce qu'on touche à l'existence même de la vie civique, où religieux et cité sont intimement liés. Et puis, l'accusation de corrompre la jeunesse est suffisamment vague pour éventuellement inquiéter. Mais les accusations doivent être replacées dans un contexte bien particulier. La guerre du Péloponnèse a été une défaite pour Athènes. La démocratie athénienne a subi une défaite grave, et d'ailleurs, pendant les années qui suivent la défaite, à la toute fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, il y a la tyrannie des 30 qui gouverne la ville. Certes, cette tyrannie est courte, mais elle montre bien la faiblesse de la démocratie athénienne à ce moment-là. Et au moment où l'on accuse justement Socrate d'impiété et de corruption de la jeunesse, la démocratie n'est restaurée que depuis peu et elle est inquiète sur son devenir. C'est donc dans ce contexte d'inquiétude où finalement certains veulent peut-être faire payer à Socrate ce qu'il a pu contester de leur autorité, ce qu'il a pu enseigner à la jeunesse, qu'il va donc être porté en tribunal, devant le tribunal du peuple, jugé par des citoyens athéniens. Il devra, à ce moment-là, s'expliquer devant eux. La procédure est la suivante. Les trois accusateurs vont porter leurs accusations devant le tribunal. Et ensuite, eh bien, Socrate a la parole et il peut lui-même se défendre. C'est ce que fait celui que Platon a appelé le plus sage et le plus juste des hommes. Alors évidemment, nous avons la défense de Socrate grâce à Platon. Certains ont pu se demander si, dans cette apologie de Socrate, Platon n'avait pas peut-être donné le beau rôle à son maître, au détriment de ses accusateurs. Ce n'est pas totalement impossible, mais tout de même une remarque. L'apologie de Socrate est écrite 5 à 6 ans après les événements. Ce qui veut dire qu'il y a encore de très nombreux témoins qui peuvent attester ou contredire Platon sur ce qu'il écrit à ce sujet. Ce qui fait que l'intérêt de Platon n'était pas de travestir véritablement la vérité. Donc on peut estimer que les paroles que Platon met dans la bouche de Socrate pour sa défense sont sans doute très proches de la vérité. Et il faut bien le dire, on a le sentiment que Socrate parvient à démolir les accusations de ses accusateurs, en montrant d'ailleurs le côté vague, ou finalement en montrant que lui-même est respectueux des dieux, même si il pose des fois des questions pour voir si les jeunes qui l'entourent sont eux-mêmes totalement en adéquation entre le sentiment de la divinité et ce qu'ils peuvent vivre durant leur existence quotidienne. Mais là où peut-être Socrate a poussé, je dirais, les attestations très loin, c'est que, comme la législation le prévoyait, il va pouvoir donner son sentiment sur la peine qu'il doit recevoir. Ses accusateurs proposent la peine de mort. Lui propose une petite amende et qu'il puisse être nourri au prytané. Alors évidemment, nourri au prytané, c'était seulement les très grands personnages d'Athènes qui avaient ce privilège. Ce qui fait que là, il semble finalement un peu défier le tribunal, en expliquant que c'était soit la mort, soit finalement une reconnaissance publique absolue. Par 281 voix contre 221, il est donc condamné à mort. Il avait sans doute heurté trop de notables, trop de citoyens athéniens qui se méfiaient de cet esprit fort qu'était Socrate. Sa mort, il doit se l'administrer lui-même en buvant un poison, de la ciguë. Il va le faire malgré les abjurations de ses amis qui lui demandent de revenir sur ses idées, d'éviter éventuellement de continuer à provoquer les notables athéniens. Criton va même lui proposer de fuir et de se réfugier ailleurs. Socrate refusera totalement. Donc il but la ciguë et il est mort finalement d'une manière, je vais employer un mot un peu anachronique pour l'époque, mais d'une manière finalement stoïcienne. Mais il ne reste pas moins que Socrate est sans doute un des plus grands esprits que l'Antiquité grecque a pu nous fournir.